Et au week-end prochain.
À samedi.
Le 6-9 du week-end. Sur France Inter.
À 8h10, Patricia Martin, votre invitée ce matin, c'est l'écrivain qui est aussi marin, Yann Kefelek, pour son dictionnaire amoureux de la mer. Le livre paraît chez Plon.
Je suis sûre, Éric Delvaux, que vous avez déjà emmené une fille en mer pour la séduire.
Ça m'est arrivé, vous connaissez.
Je le savais. Parce que c'est bien le genre de Yann Kefelek qui entretient un lien viscéral avec l'océan, les gens de la mer aussi, les îles et la liberté que l'horizon marin procure au sens comblé. Bonjour Yann Kefelek.
Bonjour Patricia Martin.
Après le dictionnaire donc de la Bretagne, ça c'était il y a quelques années, vous signez le dictionnaire amoureux de la mer, avec une majuscule évidemment, la mer.
Non, pas avec une majuscule, la mer MER, c'est un nom commun. C'est
enfin, sur la couverture du livre, il y a...
Ah oui, non, mais ça c'est pour des raisons de... Voilà, c'est pour que ça saute aux yeux de l'éventuel acheteur.
Alors il paraît, je ne l'ai pas compté, mais que le mot est employé 3298 fois dans le dictionnaire. La mer, ce mot enchanteur, innombrable et parfait.
Oui, je peux difficilement aller plus loin que cette phrase qui dit bien ce qu'elle veut dire. C'est un mot qu'on peut répéter ad vitam aeternam sans le trouver lassant. J'ai essayé avec quelques autres mots, je suis pas allé jusqu'à 3298 fois, mais c'est vrai que la répétition finit par user la beauté musicale d'un mot, ce qui n'est pas le cas pour le mot mer, étrangement. Peut-être parce qu'il y a aussi la résonance maternelle du mot mer dans la mer, que finalement c'est le mot essentiel par excellence et qu'on ne peut jamais s'en passer.
D'ailleurs, elle ne retient que l'essentiel, cette mer, que vous avez toujours connue d'ailleurs, puisque vous parlez de la mer, M-E-R-E, elle était enceinte de vous et elle était sur des bateaux.
Oui, c'est assez formidable parce que j'ai redécouvert, grâce à Claudine Lemaire, une image de ma mère, une photo de ma mère, une photo argentique magnifique, sur le quai de Brest à la fin du mois d'août 49, enceinte. Ma mère, elle ne peut être enceinte que de moi, puisque je suis du 4 septembre. Malheureusement, si elle est enceinte de moi sur le quai de Brest fin août, le 4 septembre 49, je nais à Paris.
Et la marée basse, et dites-vous, écrivez-vous votre coffre à jouets, vous jouiez aussi aux îles dans la baignoire?
Oui, mais c'est le premier océan d'un enfant, la baignoire d'une famille, quand il a la chance d'ailleurs d'avoir une baignoire à la maison, sinon je me serais débrouillé avec n'importe quel lavabo. Mais j'avais besoin d'assurer la présence de l'océan par la pièce d'eau dont je disposais chez moi étant petit garçon. Et la plus vaste pièce d'eau de la maison, c'était la baignoire. Dans la baignoire, je faisais naviguer tout ce qui était susceptible de flotter, des chaussures, des petits bateaux, effectivement, en bois ou en plastique, des petites cuillères, n'importe quoi, pour me rappeler que j'étais un enfant de l'océan, que la mer me manquait, que les bateaux me manquaient et qu'un jour je partirais sur une baignoire plus grande que celle de la maison.
Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'écrivains qui l'ont servi et bien servi, cette mer. Vous en citez énormément.
Je trouve qu'ils sont moins nombreux qu'ils ne devraient l'être. Mmh. C'est d'ailleurs assez extraordinaire de voir que la mer est aussi importante pour l'homme, pour l'être humain, qu'il soit terrien ou marin. D'ailleurs, c'est elle qui assure la respiration de l'univers autour de nous et qui va assurer celle de l'avenir. En tout cas, on l'espère. Mais la mer est extrêmement difficile à dire en littérature. Et j'ai beaucoup de mal, justement, à aimer les livres où la mer est le personnage principal. Ce sont finalement les auteurs anglo-saxons. Je dis ça avec beaucoup de tristesse, d'ailleurs, parce que, qui sont régulièrement les meilleurs pour dire la mer, pour dire le lien entre l'homme et la mer, sans se prendre pour des décrivains plutôt que des écrivains, et pour des gens qui sont capables de s'égaler à la puissance du flot par la puissance des mots.
Reste à écrire le livre sur le mouvement général des eaux et du vent. Alors, vous allez peut-être l'écrire, vous?
Non, ce livre, ce livre a été écrit, il a fort heureusement été écrit au 19e siècle par un marin américain d'origine bretonne.
Ça m'a échappé.
Un enfant de la migration. Et c'était absolument indispensable de l'écrire à une époque où la voile était fortement contrebattue par l'apparition de la marine à vapeur et où la voile n'avait pas l'intention de se laisser détrôner par la mécanique, surtout la mécanique du feu. Donc, grâce à cet homme, on a découvert effectivement tout le jeu des courants, le jeu des vents, et on a pu, pendant longtemps, la rapidité des bateaux à voile a été supérieure à celle des bateaux à moteur. La rapidité et la sécurité.
Il n'y a de bateaux qu'à voile.
Non, pas du tout. Les bateaux, j'aime énormément les bateaux à moteur. Il y a une poésie des vieux cargos, il y a une poésie de la rouille, il y a une poésie, c'est un matériau extrêmement noble, le métal. C'est un matériau noble, et puis c'est un matériau qui va de pair avec le travail de la mer, avec les travailleurs de la mer. Tout cela rend les bateaux de fer, les bateaux d'acier extrêmement attachants pour les amateurs de mer. Alors c'est vrai que j'ai eu plus de mal pendant longtemps avec les bateaux en plastique. Et j'ai toujours d'ailleurs un peu de mal avec les bateaux en plastique parce que ce sont des matériaux qui polluent les mers et qui attrapent moins bien la lumière que les bateaux de métal ou les bateaux de bois, donc ils sont moins beaux sur l'eau, quoi qu'on puisse en dire. Mais maintenant on est passé au carbone et c'est vrai que ça se passe mieux.
Mais on ne parlera pas du mal que vous pensez et que vous écrivez du salon nautique. Comment
Je pense du mal du salon nautique.
Vous en dites pas du bien, oui.
Non, le salon nautique, il a un avantage extraordinaire, c'est qu'il permet d'aller visiter des bateaux dont on n'aura jamais les moyens financiers, ouais. Et puis de voir un peu à quoi les architectes navals donc trouvent à s'exprimer dans le salon nautique et nous font découvrir des formes de bateaux auxquelles on n'était absolument pas préparé. C'est assez passionnant d'ailleurs de voir l'imagination dont ils font preuve aussi dans l'intention de séduire les épouses des éventuels acheteurs. C'est-à-dire, ce sont souvent des bateaux qui ont été imaginés autour d'une extraordinaire cuisine, d'un extraordinaire carré, pour que l'épouse, qui n'est pas du tout attirés par la mer, se disent « je veux ce bateau ».
C'est un geste fort aujourd'hui, Yann Kefelet, que publier un dictionnaire sur la mer, parce que comment rester muet, et là je vous cite, « quand c'est la mer qu'on assassine ». En ce moment, c'est quand même la première à récupérer toutes nos saloperies.
Elle l'a toujours été, mais là c'est pire que jamais avec le progrès technique. Vous voyez, depuis la voile, on a cessé d'accumuler les déchets de manière exponentielle. Et c'est vrai que c'est absolument catastrophique. C'est vrai qu'on assassine la mer, et c'est vrai aussi qu'on n'est absolument pas conscient de cet assassinat. On a beau le répéter de mille et une manières, on a beau publier des tonnes d'articles sur le mauvais état de la mer, on ne fait pas grand-chose pour s'amender. Pourtant, on va être obligé d'en prendre conscience, car la mer ne va pas tarder à nous montrer qu'elle va extrêmement mal et qu'à force de nous sauver la vie, eh bien, elle n'en peut plus. C'est au péril de sa propre vie qu'elle assure notre survie, enfin qu'elle l'a fait jusqu'à maintenant.
On a évoqué votre mère au début de cette interview. Comment ne pas la terminer sans parler de votre père, Henri Kefelec, dont vous dites qu'il était un dictionnaire de la mer à lui tout seul, hein?
Oui, ma mère aussi était un dictionnaire de la mer, M-E-R, à elle seule. C'était une femme qui adorait la mer, qui lisait les écrivains de la mer, les poètes de la mer. C'est elle qui m'a fait lire Moby Dick, dont elle considérait que c'était le plus grand texte jamais écrit sur l'homme, et sur l'homme en contact avec les flots et avec les bêtes de la mer, dans toute leur symbolique et en même temps dans tout leur danger qu'elle représentait pour l'homme. Quant à mon père, le seul défaut de mon père, c'est qu'il ne parlait pas breton, donc il n'a pas pu l'enseigner à ses enfants. À part ça, la mer c'était une espèce d'animal marin et d'animal écrivain. C'était un immense intellectuel doublé d'un incroyable vivant et d'un vivant jamais aussi vivant que lorsqu'il était en train de nager.
Ouais, enfin, il parlait pas breton, mais il parlait grec et latin. Un père que vous malmenez, enfin, qui se dit malmené parfois par un fils dernier de la classe, un père génial, fou, qui nageait dans l'irrationnel. Et pour en savoir plus sur ces rapports entre père et fils, Yann Kefelec, on peut lire le journal Le Monde de ce week-end. Ouais, auquel vous avez accordé une interview. Merci à vous.
Merci à tous les deux, Yann Kefelec. On rappelle le titre de votre livre.
Dictionnaire amoureux de la mer, c'est publié chez Plon.
Un mot sur les invités de la matinale à partir de 8h20 ce matin, en marge du plus grand congrès mondial sur le cancer qui se tient en ce moment à Chicago. Question sur les dernières thérapies et le vivre ensemble. On en parlera d'abord avec Anne-Sophie Tusinski. Elle est fondatrice de Cancer at Work. Comment les entreprises s'adaptent à la maladie de leurs salariés. Et pour parler des dernières innovations dans le traitement du cancer, eh bien, nous serons rejoints à 8h40 par le docteur Jean-Marie Michaud. Il est onco-hématologue à l'hôpital Gustave Roussy à Villejuif, c'est près de Paris, et c'est l'hôpital qui est aussi le premier centre de lutte contre le cancer en Europe. Il accueille 50 000 patients chaque année. Vos questions à nos deux invités ce matin, ce sera au 01 45 24 7000. Dans une minute, ce sera le journal de 8h.